est possible de tellement maltraiter les prisonniers dans les prisons, c'est parce qu'on tolère que le peuple soit maltraité partout. Opprimé, divisé, humilié dès l'école, les cités dortoirs, les usines, les casernes, les hôpitaux, les asiles, les foyers de travailleurs, les foyers pour l'enfance ou la vieillesse. On ne viendra pas à bout du système pénitentiaire si on ne se décide pas à lutter partout contre l'intolérable. Les chaînes des prisonniers sont les mêmes que celles de tous les hommes sans pouvoir sur leur vie. Elles sont simplement plus visibles. Les détenus, face aux tentatives du pouvoir pour les isoler dans leur lutte, ont besoin du soutien de tous les révoltés. Leur colère est la nôtre. MDCHN, salut.
Monsieur a les fourmis dans les jambes. Monsieur Ray, de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Un nouvel opus de MDCHN
sur Radio Gala 88.4. Une émission de classe.
Qui on appelle au saccage de toutes nos cages.
Bonsoir, bienvenue sur MDCHN.
Et comme d'habitude, nous allons commencer par les brèves de la guerre sociale. Et en fait, je vais commencer juste par une petite brève qui m'a fait juste sourire. En Pologne, un homme est entré dans une banque en caleçon et en bermuda, short et petite tennis pour braquer la banque. Il s'est fait attraper et figurez-vous, c'était un curé au chômage de 34 ans qui, bon, malheureusement, s'est fait attraper et peut-être qu'il aurait dû y aller avec sa soutane. Ça aurait été plus simple. Voilà, c'était juste pour la petite note.
C'était juste la meilleure brève du jour.
La brève la plus insolite, voilà. Sinon, en Belgique, toujours, on vous a parlé fin août des rébellions dans la prison de Saint-Gilles. Eh ben, les incidents se sont répétés donc, dans cette prison où régulièrement des mutineries se déclenchent, comme voilà, fin août. Cette fois-ci, ils ont foutu le feu aux papiers, aux déchets et autres matos. Et surpopulation et locaux délabrés sont le lot quotidien de ces prisonniers qui ont décidé de se révolter. Les matons, eux, sont en grève et se disent apeurés par une atmosphère très tendue. Les pauvres, ils ont été momentanément été remplacés par la police. Et au niveau de la solidarité offensive un peu partout en Europe, à Athènes, heure avec les Condés suite à l'arrestation de 4 jeunes qui ont été soupçonnés d'être impliqués dans un attentat à la bombe contre un opposant socialiste. Et toujours en Belgique, où ça boue d'un peu partout, à Bruxelles, notamment dans le quartier de Molenbeek et un autre dont on vous a parlé. Il y a la même solidarité qui s'est faite comme en Grèce après une arrestation un peu musclée. Des jeunes ont attaqué le commissariat et les émeutes se sont produites jusqu'au milieu de la nuit. Et à Gand, ce sont 5 véhicules de la Banque Postale, qui est la gérante des comptes bancaires des prisons et des constructions d'un futur centre fermé, qui sont partis en fumée. Ainsi qu'à Louvain, le 22 septembre, où des inconnus masqués ont investi une salle de vente du groupe Deligne, qui est en fait le groupe de transport en commun flamand. Ils ont bloqué les guichets avec de la mousse PU, polyuréthane, et jeté des tracts expliquant la collaboration de cette boîte dans les rafles de sans-papiers et dans la construction d'un nouveau centre fermé. Solidarité offensive.
Pour les autres brèves, pas mal d'actions de solidarité aussi. Alors notamment en Italie, avec en soutien avec les 14 sans-papiers qui sont en procès là, à Milan pour la révolte qu'il y a eu dans le centre de rétention il n'y a pas très longtemps. Donc il y a eu beaucoup d'actions de solidarité en Italie et dernièrement à Paris, il y a eu l'occupation et l'attaque de la Croix-Rouge sur la même action de soutien. Parce qu'il faut savoir que la Croix-Rouge, sous couvert d'accompagnement sanitaire, est en fait un bon allié de la police pour les expulsions et qui vont même jusqu'à gérer certains centres de rétention. Donc voilà, il y a aussi eu la Poste, des distributeurs incendiés. Voilà, l'agence visée avait apparemment balancé des sans-papiers en 2007. Et voilà, expulsion. Et il y a aussi à Grenoble eu des squats qui se sont fait expulser dernièrement. Et en action de solidarité, il y a eu des agences immobilières qui ont été visées, donc taguées, serrures engluées, donc agences immobilières fermées pour soutien aux squats expulsés.
Le sabotage, j'aime.
Et on a un petit communiqué qui vient des gens qui se sont fait expulser de Montreuil cet été à Paris, dont on a pas mal parlé sur NDGEN. Voilà, et on va vous lire le texte qu'ils ont écrit, qui est plutôt positif, voilà, optimiste.
Ils investissent dans l'immobilier, investissons leur maison. C'est la rentrée. Loyer trop cher, squat expulsé pendant l'été, fin de bail, appartement minuscule ou délabré. Nombreux sont ceux qui cherchent à se loger sans en avoir les moyens ou les garanties exigées.
Il y a 4 mois, suite à une décision d'expulsion, il nous a fallu quitter la maison que nous habitions sans droit ni titre. Depuis, nous vivions à droite à gauche, comme tant d'autres, hébergés chez des amis qui voulaient bien nous faire un brin de place, nos affaires éparpillées un peu partout. Promenade, repérage, à pied, en voiture, cercle de recherche, de logement, échange de bons plans entre camarades, enquête au cadastre, nous cherchions une maison.
Aujourd'hui, nous sommes contents de vous annoncer que nous avons une nouvelle maison. Une maison pour habiter à plusieurs, un espace assez grand pour inviter, un jardin à cultiver, un toit sous lequel dormir, manger, palabrer, conspirer, aimer, crier, protéger et tutti quanti, le plus longtemps possible. Une maison pour habiter le monde.
Nous avions repéré cette maison vide depuis un certain temps déjà. Une maison fermée, murée, morte. Elle appartient à Quartz Properties, société immobilière qui possède l'entreprise voisine et des dizaines d'autres terrains à Montreuil, notamment le long des murs à pêche dont elle a contribué largement à la destruction. Quartz Properties appartient à Proudreed, fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Proudreed possède des dizaines d'entreprises comme Quartz Properties, elle-même propriétaire de centaines de terrains et bâtiments en France.
Les dirigeants sont bien contents. 2008 reste une année record. Ça, c'est une citation. 2008 reste une année record pour Proudreed en termes de hausse des revenus locatifs, de valeur de patrimoine et de cash flow et de baisse du taux de vacances. Et ce, malgré un contexte mondial en crise. Pérorent-ils en première page de leur site internet. Et encore, là, je cite, la seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Triomphalisme cynique et décomplexé de l'idéologie libérale.
Mais l'individualisme ne règne pas partout. Les pratiques d'entraide et de solidarité n'ont jamais cessé d'exister, d'autant moins alors qu'on organise la précarisation de tous en invoquant une crise historique.
L'entraide, c'est des grandes choses et des petites choses, un désir de commun qui habite le quotidien. C'est mon voisin qui me prête sa voiture et une île en grève qui trouve à se nourrir tout en bloquant les flux. C'est se regrouper pour veiller sur les enfants quand les crèches sont pleines. Et c'est abriter un homme sans papier poursuivi par les flics. Ce sont des ouvriers qui arrêtent le travail pour soutenir leurs collègues licenciés et des habitants qui font du pain pour tout le quartier. C'est se défendre à nombreux contre les institutions de contrôle social ou faire une grande manifestation contre l'occupation policière de la rue.
Ouvrir une maison dont les propriétaires n'ont aucun usage est un acte simple, modeste. Mais ce que cela implique, l'organisation collective, la solidarité des voisins, le partage des savoirs manuels et juridiques, l'autodéfense face aux polices, ce sont autant de gestes de solidarité qui font rupture avec les logiques de gestion qui isolent, enferment, écrasent. C'est une attention au commun, parfois fatigante, mais toujours vitale. Alors, on continue. À bientôt, dans la rue,
ici ou ailleurs.
Occupa.
Music.
Marche sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche, je rêve de revanche, en semaine et le dimanche, je traîne en zone franche, où l'indigène flanche, où le système se penche, sur les peaux blanches, lèche les plus riches, prêche les bacchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent, ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides, le décor du nord et puis des caïdes, sans remords, aucun et que la fièvre de leur guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide, j'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand ils projettent de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart est la cause qu'ils plaident, quand ils nous briment, nous rejettent et puis nous dépossèdent, et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède, j'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni homo, ni offrande, ni aide. La haine me suit. Là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure, insultes, lutte, chute, échec et injures. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard un boulot à saisir et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors moi je sors et m'emmerde à mort. Je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent avant les renforts. La casse et le Delbor, ma race et mon folklore. La crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère? Faire du son, du sport. La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. N'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur. Joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte. Et il en résulte mes raisons de prendre le colt. Au vu de ce que je récolte, la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte. Le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute. Une sale vie d'adulte que seul le sang exalte. Et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte. Et ça suinte, la crainte, les pleurs et les plaintes. Les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte. Les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente. L'achat et la vente et les rêves qu'on s'invente. Les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque. Quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans les tuyaux. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Kazé, en falche, 2005.
Des chaînes, Radio Galère 88.4, c'était Kazé, le fusil dans les tuyaux.
Kazé, quelqu'un qu'on aime bien.
Et qu'on écoute beaucoup.
Et donc pour introduire peut-être une petite thématique de la soirée.
Il n'y a pas vraiment de thématique justement, on aborde plusieurs trucs. On va parler de...
Il y a quand même une petite thématique.
Bon, école-prison, on va dire, on a abordé, mais on va aussi parler du travail et des suicides
France Télécom.
Ouais, voilà, de France Télécom. Et
puis, la longue chaîne de l'exploitation.
Et puis, la fin, un petit montage sur Marseille 2013.
Voilà. Et donc, pour commencer l'émission, on va commencer par la petite rubrique histoire. Comme la semaine dernière, on l'a fait sur les Cangaceros. Cette semaine, je vais vous parler du Comité d'Action des Prisonniers, qui a été un journal, mais surtout une association qui s'est créée au début des années 70, à l'initiative de Serge Livrozet, qui a fait pas mal de placards en association avec Michel Foucault. Voilà, donc c'était une association 2001, anticarcérale et abolitionniste, qui avait pour but à l'époque, c'était avant 74, dans le post-68, où il y avait beaucoup de mouvements qui se passaient dans les tôles, beaucoup de mutineries, de rébellions. Et ça arrive juste avant 1974, qui est une date où on a déjà parlé sur l'émission. Il y a eu énormément de mutineries dans les prisons françaises et dans les centrales pour un peu dénoncer ce qui s'y passait, notamment dans les quartiers hauts de sécurité et par rapport à la peine de mort, parce qu'à l'époque, la peine de mort rapide, hein, le quick, la guillotine, existait encore, quoi. Donc voilà, ils avaient 11 points de revendication de base, qui étaient donc la suppression du casier judiciaire, la suppression de l'interdiction de séjour, la suppression de la peine de mort, la suppression de la prison à vie, la suppression de la tutelle pénale, la suppression de la contrainte par corps, aménagement des frais de justice, la réorganisation du travail en prison, c'est-à-dire le salaire minimum du SMIC, la Sécu, le certificat de travail, ce qu'ils ont toujours pas d'ailleurs acquis, le droit au parloir et la correspondance libre, et le droit à des soins médicaux et dentaires corrects, le droit de recours et de défense des détenus devant l'administration pénitentiaire, donc prétoire, libération conditionnelle, etc., et le droit d'association à l'intérieur des prisons. On voit bien que quasiment 40 balais après, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est la suppression de la peine de mort rapide, et pas la peine de mort lente des longues peines. Et donc on vous parle de ça parce que ça se passe donc il y a quasiment 40 ans, et que début novembre, il y a une semaine qui va se passer, comme on vous l'a dit, sur l'abolition des longues peines, où tous les jours, on crève dans les tôles. Et voilà, donc le comité n'existe plus, il a duré quelques années, l'espace de quelques numéros, on fera sûrement une émission un peu plus complète là-dessus. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que, comme à une des chaînes, ils se positionnaient pas spécialement que contre la prison, mais aussi contre toutes les formes d'enfermement qu'on connaît dès la naissance, et notamment le dressage par l'État. Et justement, dans le numéro 2, il y a une lettre qui est écrite par des instits qui se prononcent sur l'école et un regard de l'école comme une prison. Voilà.
Nous sommes tous des prisonniers.
Des prisonniers de la société qui fabrique des morts vivants, dont l'école en est la meilleure forge.
L'enfant, tout au long de sa scolarité et dès les débuts, devra apprendre à perdre tout ce qui forme sa vie, son corps et son esprit.
Du béton partout, des murs blancs partout,
des coups de sifflet,
des rangs, des ordres, des sanctions.
Et surtout,
du silence.
Toujours.
Jusqu'aux soi-disant récréations, dans un espace clos, protégé de grillages et des pelouses qui conduisent au piqué si l'on pose le pied dessus.
Car l'instituteur veille comme un véritable gardien de prison qui surveille ses petits dans une cour pénitentiaire.
Et là déjà apparaissent les premières limites. L'enfant doit abandonner son désir de posséder le monde. Il doit apprendre qu'une cour de récréation est un espace carré, goudronné, que les pelouses sont interdites.
Il apprend à limiter son corps et à le perdre. Une demi-table lui est réservée, d'où il ne doit pas bouger, où il ne doit pas se retourner, où il ne doit pas parler, sinon au maître qui décharge chaque jour dans le corps des enfants son poison culturel. Et avec la culture, apparaît l'autre limite, l'autre perte, celle de l'esprit.
L'imagination créatrice, spontanée de l'enfant, que beaucoup ne veulent pas admettre, est abandonnée, détruite, arrachée au profit d'un savoir livresque qui ne trouve aucun écho dans la vie quotidienne de l'enfant. Ici apparaît l'idée première et perpétuelle que l'adulte doit apprendre à l'enfant et jamais l'inverse. La culture, le savoir doivent apparaître à l'enfant comme nécessaire et essentiel pour vivre. Non pas immédiatement, mais quand il sera adulte, quand il entrera dans la vie active.
Ce savoir scolaire qui lui aura mis des barreaux de cellules dans la tête et devant les yeux, qui aura créé cette nouvelle limite mentale, l'obligera logiquement à penser qu'une autorité, un pouvoir, une discipline lui sont nécessaires pour se maintenir en vie.
Et si vous n'avez pas accepté, si vous n'êtes pas encore parvenu à suicider votre esprit et votre corps, dont l'école fut votre préparation pour entrer dans la société prison, il y a la prison judiciaire, juridique, civique, la vraie, la seule dont on parle quand on prononce le mot prison. Où de plus en plus souvent on se suicide vraiment, où on vous suicide définitivement et totalement.
L'école ne vous conduit pas en prison, au contraire, elle vous évite d'y aller si vous avez bien avalé chaque jour l'opium du maître chien de garde qui vous ramollit l'esprit, vous marque le corps. Bref, vous conditionne pour que vous pénétriez docilement dans l'autre prison, la grande, celle où nous sommes tous.
Il ne faut pas oublier que sur toutes les petites portes des cellules de prison se referme l'immense porte du pouvoir.
S'opposer à la société, à la police, c'est s'opposer à soi-même, c'est s'opposer à tout ce passé scolaire, ce flic mental, pour une libération totale. Il s'agit ainsi de supprimer le policier sans uniforme que l'école a installé dans notre corps.
Ce policier interne que nous protégeons dans notre pensée, et l'ordre que nous perpétuons ainsi, nous empêche de projeter notre désir de vivre sur les casques et les matraques extérieures.
Il faut vivre et se battre, sachant que nous sommes tous totalement des prisonniers, mais pas définitivement.
Alors voilà, on y est, à cette fameuse comparaison qui est souvent difficile à admettre entre la prison et l'école. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même toujours plus de douceur et de sourire dans les souvenirs de notre enfance que dans les souvenirs d'un ancien détenu ou d'un détenu condamnée à crever socialement et corporellement. Mais l'école, elle en reste pas moins la première étape d'un apprentissage et d'un formatage bien uniforme de nos esprits et de nos mouvements. Caméras de vidéosurveillance, techniques de contrôle biométrique, RFID et compagnie, la conception panoptique de cette architecture bien froide et aseptisée qui nous encercle. Bref, tous ces moyens qui ne sont pas seuls réservés à la rue, à la prison, voire à nos lieux de travail, comme ça se voit de plus en plus, mais qui le sont tout aussi mis en place dans les lieux d'éducation du futur citoyen démocrate. Donc dans les écoles, les primaires, comme les collèges, comme les lycées, et ben de plus en plus, on a accès à la cantine en présentant ses empreintes digitales, comme ça se voit à Angers, à Marseille, à Paris, partout. Et dans d'autres, c'est une empreinte biométrique de la main qu'il faut présenter pour aller bouffer. Dans un lycée, par exemple de Mantes-la-Jolie, on peut aussi compter sur 104 caméras de surveillance pour mieux te protéger, mon enfant. Et dans d'autres bahuts encore, et ben c'est les retardataires qui ont affaire à une pointeuse qui enregistre les données sur un fichier national auquel les écoles nationales post-bac et compagnie auront accès. Et ouais. Et puis l'architecture, alors, elle a témoignage d'une collégienne.
Le collège est entouré de grilles. Les entrées et sorties sont surveillées systématiquement par des caméras de vidéosurveillance. À chaque sortie, vérifie les carnets de correspondance. Il est bien sûr interdit de rester devant le collège, et si au bout d'un quart d'heure, personne n'est venu chercher les élèves, ils doivent se rendre à l'intérieur et aller à la vie scolaire, centre de surveillance de l'établissement. Les fouilles sont pratiquées assez couramment. Le principal et le principal adjoint pénètrent régulièrement en plein cours, sans explication, et exigent de fouiller les cartables et les trousses. Le règlement spécifie que tous les casiers peuvent être fouillés, à tout moment, par l'administration. Au collège de La Salle, à Montpellier, une journée de fouilles a eu lieu afin de vérifier dans tous les agendas s'il n'y avait pas de photos érotiques, voire simplement dénudées, qui sont considérées comme une incitation à la pornographie et répréhensibles d'une exclusion. Au self-service, il est interdit de circuler. Une fois assis, plus le droit de se lever. Une fois dans la cour, entre midi et deux, les pions effectuent des rondes. Ils circulent constamment pour surveiller les faits et gestes de tous les élèves. L'élève citoyen est bien sûr à l'ordre du jour. La délation est favorisée. Les gendarmes peuvent entrer dans l'établissement pour cueillir un jeune délinquant en possession d'une boulette de shit. Les méthodes de contrôle et de surveillance sont de type policier. Lors d'un incident dans la cour de récréation, où un groupe d'élèves en menace un autre, les pions prennent les choses en main et incitent à la délation en mettant en avant le droit de se défendre face aux mauvais éléments et de répondre aux violences. Les fauteurs de troubles doivent être punis. Pour cela, la victime est sommée devant un registre contenant les photos de tous les collégiens de l'année de reconnaître le coupable pour qu'il soit sanctionné.
Le décor est posé. Réveil 7h30. J'ai pas envie d'y aller, mais j'ai peur des conséquences de mon absence. Me justifier, j'en ai plus la force. Finalement, j'ai l'impression que quelque part on me force à accepter que je ne m'appartiens pas. 8h, vite, faut partir, courir, ne pas être en retard. 8h20, sonnerie. Qui sonne plus comme un déchirement violent de mon individualité que comme un doux appel à l'évasion, à l'épanouissement, comme ils disent. 8h30, c'est parti. Silence, cadencé. Se gaver des aboiements du supérieur hiérarchique, du contremaître, du maître. 10h, la pause, pause café. La pause énergie, Kit Kat Coca, pour rester productif et consommateur. 10 minutes, et c'est reparti. Les minutes s'allongent et s'éternisent. Souffle court, tremblement du corps qui n'en peut plus d'être à mobilité contrôlée et contrainte. Ça sonne, enfin midi, fuir ne serait-ce qu'une heure, faire semblant d'oublier, pour finalement lobotomiser, y retourner. Encore 4 heures à se lamenter, à laisser ce chantage pourri à l'exclusion nous dominer, à ancrer dans nos veines le poison de la peur du lendemain, la peur de vivre. 17h, torrent de lave, courir vers l'extérieur à l'air libre, avant étouffement et asphyxie, vomir tout ce qu'on a pris dans la gueule depuis le matin. Et ça, c'est si t'as pas fait de conneries, si t'as pas oublié ton dossier ou lésé le bon fonctionnement général. Sinon, heure supplémentaire pour réparer, expier ta faute. Subir ça toutes les semaines, tous les mois de l'année, du lundi au vendredi. Au début de ma carrière, pour m'habituer, on me faisait bosser 30 heures par semaine. Mais maintenant, j'en suis à 40 heures. Et le temps qui me reste, eh ben, je l'occupe à récupérer et me reposer avant d'être pris de court par le réveil du lundi. Bienvenue dans le monde du travail. Eh ben non, c'était bienvenue dans le monde merveilleux des enfants. Parce que quoi qu'on en dise, l'école n'échappe ni aux lois du marché, ni aux besoins de l'entreprise, ni à la coutumisation d'un système répressif. Elle est gratuite, non par altruisme, mais par nécessité mécanique de production. On y enseigne une culture générale, non par souci d'égalité, mais par souci d'uniformisation des esprits, pour créer l'autre, l'étranger, le marginal, celui qui n'a pas ta culture, avec qui tu ne dois surtout pas échanger. C'est pour ça que l'école et la prison sont comparables. non par un quelconque degré de souffrance, mais parce qu'elles portent toutes deux en elles un rôle de contrôle et de gestion de nos vies qui est basé sur la peur. D'un bout à l'autre de la chaîne, c'est la même répression, ce monde de merde.
Ce monde, c'est de la merde. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on le dira. À bas l'État, le travail, le citoyennisme, le spectacle, l'abrutissement de masse, la vigilisation des espaces et des esprits, l'uniformisation de tout, des comportements, des relations, les enfermements, la généralisation des moyens de contrôle, de surveillance, de répression. Si on en est là, c'est qu'existe parmi tant d'autres horreurs étatiques l'école, l'éducation nationale, l'institution scolaire, l'école, avec la famille, le ciment de notre meilleur des mondes. Les écoles, matrices à hordes de citoyens névrotiques et dévoués qui, comme ceux d'avant, assureront et défendront avec passion et conviction la survie et la pérennité de ce monde de merde. L'école mâche le travail au keuf, publicitaire et autres crapules cyniques. L'école fabrique keuf, publicitaire et autres crapules cyniques. Les valeurs de l'école sont celles de la société AI. Travail, compétition, performance, fierté, ambition, soumission, obéissance, collaboration, délation. À l'école, on travaille pour que dalle, tout le temps. L'école apprend la peur, tire du moule, peur de désobéir, peur de se faire punir, peur de décevoir les référents, les profs, les parents. Peur, une fois intégrée, indélébile, inscrite pour toujours au fond de chacun de nous. Peur, peur du flic, peur de voler, peur de désobéir, peur de franchir les limites établies. Peur comme emprise, peur, puis tout accepter, car désarmé, désamorcé. Craindre et plébisciter ceux qui en sont à l'origine et qui disent en avoir l'antidote. L'école fabrique en chacun l'illusion de la démocratie en apprenant aux gens à voter, élire des délégués censés les défendre et les représenter auprès des instances. Soi-disant la seule façon de se faire entendre, la mascarade habituelle pour mieux te faire intégrer docilement ta condition pourrave. Tu sais rien, t'es rien, rien qu'un élément d'une cargaison de gosses du même âge. Et t'as de la chance d'être rien, t'as de la chance d'aller à l'école. L'arbitraire comme principe, la résistance, un composant électronique. Tu trouves normal de répondre à l'appel en début de chaque cours, d'être constamment surveillé, de ne pas être censé circuler à tel endroit, à tel moment, d'avoir obligatoirement sur toi ce carnet de liaison. Tu te retrouves à faire la liaison entre deux pôles d'autorité, l'administration scolaire et ta famille. T'es contraint d'informer ta famille des conneries que t'as pu faire la veille et des sanctions dont t'as hérité. On te met dans la situation t'auto-dénoncer.
Faut pas m'en vouloir, c'est parce que je suis
retour à l'antenne. Alors, c'était Enfants à problème par Les Rats, un groupe des années, tu sais, toi, des années 80. Voilà. Et donc, on continue avec.
Ouais, on continue donc pour parler un peu toujours de l'école. Après l'avoir comparée à une prison, on avait envie de parler de l'école comme d'un lieu où, en fait, s'installe pour chacun l'évidence de se voir évalué et donc contrôlé partout et tout au long de sa vie. Donc un métier correspond souvent une fonction au sein de la société. Donc en l'occurrence, la fonction de l'école, ça serait une fonction de contrôle. Alors il y a bien la belle idée de transmission des savoirs du côté de l'enseignement, mais encore faut-il se demander comment on transmet ces savoirs. On accepte souvent trop facilement et même communément l'idée que transmettre des connaissances, c'est surtout évaluer. Et évaluer ceux à qui elles ont été transmises, c'est-à-dire les élèves ou, avec ce magnifique mot, les apprenants. Donc là, il y a un glissement qui se fait de la transmission vers l'évaluation. Et donc, sous cette idée de transmission des savoirs, apparaît la fonction sociale de contrôle de l'école. Donc, je vais vous lire un petit passage d'un bouquin qui s'appelle « Inévitablement, entre parenthèses, après l'école » de Julie Roux. Et voilà, elle parle un peu de ça. Aujourd'hui, l'enseignant fait avant tout, presque comme tout le monde, du travail social. Et aujourd'hui, travail social est la désignation adoucie, motivante de la fonction de contrôle. Mais dans le cas de la situation d'enseignement, le contrôle ne passe pas d'abord par ce qu'il peut avoir d'étroitement policier. Il passe avant tout par l'intermédiaire de ces personnages qui sont devenus les acteurs principaux de cette situation, à savoir les notes. L'enseignant est celui qui évalue, c'est-à-dire qui est l'être dont le rôle social consiste à donner des bonnes ou des mauvaises notes, et les appréciations qui vont avec. Donc, qui sont contrôlés ? Il y a donc effectivement les élèves, mais aussi les enseignants. La fonction de contrôle donc se limite pas simplement aux élèves. Donc, je continue ma petite citation du bouquin, là. L'évaluation a cette vertu qu'elle permet un contrôle aussi bien sur les élèves que sur les enseignants eux-mêmes. D'une façon générale, l'enseignant, on le sait, doit suivre un programme. La transmission du savoir est identifiée sans reste avec le fait d'avoir bien scandé les étapes du dit programme. Le contrôle de son acquisition par les élèves est en même temps l'autocontrôle de l'enseignant. Il ne restera plus, pour ceux qui font figure de supérieurs hiérarchiques, qu'à verrouiller cet autocontrôle. Ce sera le rôle des chefs d'établissement, dont le pouvoir se trouve sans cesse accru, et des absurdes et parasitaires inspecteurs. Ces derniers attribuent une note, forcément arbitraire, dont la finalité est d'orienter la carrière de l'enseignant et de justifier la promotion de ceux qui auront été les mieux récompensés. Le bien fondé de ce type de récompense et les modalités de cette évaluation sont aujourd'hui incontestées. Alors là, on peut faire une petite parenthèse pour dire quand même qu'il y en a qui contestent le droit à l'inspection, enfin le droit, non, l'obligation de l'inspection.
À Marseille, notamment.
Voilà, à Marseille. Donc je reprends. Le bien fondé de ce type de récompense et de modalités de cette évaluation sont aujourd'hui incontestés, ou presque. Ce qui engendre une infantilisation de l'enseignant, inévitablement répercutée dans le rapport aux élèves, la boucle sera ainsi bouclée. On comprend alors à quelle profondeur joue la logique de l'évaluation. En disséminant une sorte d'inquiétude perpétuelle, elle apprend essentiellement à vivre en compagnie de la peur. Et la peur, bah, c'est quand même assez facilement une arme et un fondement de la société de contrôle, que ce soit le contrôle social, keuf et compagnie, caméra, tout ça, et même l'autocontrôle de soi-même jusqu'à être son propre flic. Voilà, donc c'était un peu tout ça pour dire le rôle de contrôle de l'école, et voilà, notamment dans le fait de faire accepter l'évaluation comme règle d'or et tout au long de sa vie.
Et qu'on peut apprendre et transmettre sans bien imposer autrement. Son pouvoir, et bien autrement, voilà. Et pour ce qui est des petites bibliographies, j'ai oublié de le dire, mais les textes que vous avez entendus avant enregistrés, ils ont été tirés d'une petite édition, l'Agenda 2007, qui est sortie donc en 2007, qui s'appelle Même passage, même pas mal, qui est un petit recueil de textes sur l'éducation et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez trouver pas mal de textes sur Info Kiosque, et notamment sur un collectif qui s'appelle Alerter les bébés. Voilà. Et pour le CAP, on vous en reparlera dans de prochaines émissions.
Arrêtez d'évaluer.
Musique.
Alors, qu'est-ce que tu me disais, mon bébé ?
C'était Ludwig van de 88, Marche.
Ouais, voilà. Moi, j'avais envie de revenir sur une dépêche que j'ai trouvée sur Internet il y a quelques semaines, dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle « Un programme contre les suicides à France Télécom ». Donc, je vous lis une partie de l'article. « La direction de France Télécom a annoncé une série de mesures à la suite des suicides de plusieurs salariés de l'entreprise. Un phénomène que les syndicats imputent à des méthodes de management jugées coercitives. Cette annonce, rapportée de sources syndicales et confirmée par la direction, intervient au lendemain d'une tentative de suicide d'un salarié de France Télécom à Troyes, visé par une demande de changement d'affectation. Il s'est frappé d'un coup de poignard lors d'une réunion et a dû être hospitalisé. » Bon, voilà, l'article dure plus longtemps. Mais moi, ça m'a fait penser à d'autres suicides qu'il y a eu il y a quelques temps. Donc voilà, on en parle un mois, ça défraye la chronique et après on oublie. Et du coup, j'avais envie de revenir sur un article qui était passé à basse intensité, une émission de Radio Galère, en octobre 2007. Donc c'est un petit retour en arrière. Il y a 2 ans, au centre de recherche ou technocentre de Renault-Guyancourt dans les Yvelines, un employé suicide à son domicile. Dans la même année, il y a eu 4 suicides dans ce centre de recherche et au moins 2 autres tentatives. Cette série macabre s'est déclenchée peu après l'annonce d'un nouveau plan stratégie qui s'appelle toujours, je ne sais pas, le contrat Renault 2009. Donc à cette époque, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, le secteur automobile est en restructuration mondiale et brutale. Donc ce secteur, qui est un secteur clé de l'économie internationale, réorganise alors son processus de production afin d'augmenter la productivité. Donc la petite remarque historique, c'est que c'est quand même dans les ateliers de fabrication automobile que naissent taylorisme, fordisme et autres toyotisme, avant d'être étendus à l'ensemble du monde du travail, comme on le connaît aujourd'hui. Et au centre de Renault-Guyancourt, en particulier, le nouvel objectif depuis 2006, c'est de sortir 6 nouveaux modèles par an, au lieu de 4, accompagnés d'une baisse des effectifs et de menaces de délocalisation, donc ce qui n'est absolument pas original, vu ce qui se passe dans les autres, dans les zones usines, même si là, c'est un centre de recherche. Voilà, la deuxième partie de le petit article qu'ils avaient fait à basse intensité donne un peu des chiffres. Donc en France, aujourd'hui, il y a quand même environ 6 millions d'ouvriers sur 25 millions de travailleurs, contrairement à ce qu'on croit, on dit toujours que c'est un monde où il n'y a plus d'ouvriers, mais en fait, il y en a encore. Et on estime à 1 par jour le nombre de suicides liés directement aux conditions de travail, c'est-à-dire aux conditions de vie, puisque dans notre société, le travail est censé structurer l'ensemble de nos existences et l'ensemble de l'organisation sociale. Donc ces dernières années, ces chiffres sont en augmentation pour les travailleurs et les cadres des grandes entreprises, donc PSA, dont on a beaucoup entendu parler aussi, Areva et dernièrement France Télécom. Dans tous les secteurs, le rythme s'accélère, les charges mentales s'alourdissent et les contraintes sont chaque jour plus fortes. Alors en comparaison au Japon, qui est quand même le modèle de productivité et de paix sociale, il existe un mot qui s'appelle karoshi. Bon, je ne sais pas si je le prononce vraiment à la japonaise, mais enfin, ça s'écrit comme ça.
Karoshi.
Et karoshi, ça veut dire mort par surmenage ou suicide lié au travail. Donc ils ont un mot spécifique pour ça.
Ah, ils ont un mot pour ça.
Et il y en a environ 2500 par an.
C'est-à-dire que c'est accepté, quoi.
Ouais, voilà, ça fait juste partie du travail, quoi. Une autre estimation, c'est que dans le monde, il y a 2 200 000 travailleurs par an qui meurent d'accidents du travail. Et en France, il y a 5 accidents mortels par jour.
Et nombre de dépressions.
Donc voilà, moi, ce que ça me fait dire, c'est que comme on estime le nombre de pertes humaines après une guerre pour en évaluer sa gravité, eh ben ici, on a les chiffres de ceux qui meurent au front de la productivité qui se veut toujours plus intense. Donc voilà, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il y a un salarié qui s'est donné la mort à Marseille cet été, et il avait laissé une lettre, et dans cette lettre, il écrit « Je me suicide à cause de mon travail, c'est la seule raison ». Donc voilà, et qui parle aussi de management de la terreur, tout ça. Enfin, on a beaucoup parlé de cet événement, mais j'avais envie de revenir dessus. Et je voulais lire un petit extrait qui sort du film « La classe ouvrière va au paradis », qui date de 70, qui est réalisé par Elio Petri. « Ouvrier, ouvrière, il est 8h du matin. Ce soir, lorsque vous sortirez, il fera déjà nuit. Pour vous, la lumière du soleil, aujourd'hui encore, ne brillera pas. Vous ressortirez fatigué, vidé. » Convaincu d'avoir gagné votre journée, alors qu'au contraire, vous aurez tous été volés. Oui, nous disons bien volés, de 8 heures de votre vie. L'usine est une prison, et d'une prison, on s'évade. Voilà, et on va enchaîner sur un petit morceau qui dit qu'on est fiers de ne pas bosser.
La petite musique à...
Je suis fier.
Je suis
par les sales majestés.
Fier de ne rien faire.
jamais ne plus rien faire.
Non, 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 ne plus rien faire.
Je suis fier,
faire de ne rien faire.
Je suis fier, je ne suis
pas. Non, ne plus rien faire,
ne plus rien faire.
Vous aurez compris, on n'aime pas le travail et on n'aime pas l'école et on n'aime pas l'école qui nous mène au travail et on n'ira pas au travail pour se suicider. Et justement, si on parle de tous ces thèmes qui parfois pour certains d'entre vous n'a peut-être rien à voir, mais que c'est pour nous une seule et même chaîne d'enfermement et d'esclavagisme et que du premier au dernier maillon, tout est à détruire. Donc de l'école, la famille, en passant par le travail jusqu'à la prison. On veut tout détruire, tout brûler. Et justement, on pourrait se dire que parfois, dans cette jolie société démocratique, il existe la culture. La culture, parfois, souvent même de gauche.
Qui serait cet espace de liberté, presque.
C'est presque l'espace de liberté pour sortir de nos carcans, pour penser à autre chose.
Mais seulement, dire que... c'est la culture du capital.
Voilà, même voilà. Quand elle est de gauche.
Oh, et donc... la belle transition pour parler de Marseille 2013. Attention, voilà. petit montage. C'est un texte qu'on a trouvé sur les murs de Marseille, un journal qui s'appelle La Zone.
La Zone.
En retard, en retard, en retard. Marseille est à la bourre dans la course à la restructuration urbaine. Marseille ne ressemble pas encore assez au modèle de métropole glacée sur lequel toutes les villes s'alignent.
Pour devenir la ville musée, la ville de venture, territoire de vente et d'achat, propre, lisse et civilisée, il faut mettre un coup d'accélérateur, un coup de karcher.
Alors voilà la bonne idée, l'alibi, le grand projet. 2013, Marseille sera capitale européenne de la culture.
Le capitalisme se déguise, il met son costume de scène, il est ici incognito.
Il parle de tolérance, de pluriculturalité, de solidarité, de participation citoyenne et nous décrit une ville d'échange et d'accueil au cœur de la Méditerranée.
Comble de l'ironie, le métissage culturel, il est au centre de rétention. Il sera expulsé demain par bateau. Les pauvres crèvent toujours la dalle en coulisses.
C'est pas grave.
The show must go on.
De toute façon, il n'était pas au programme.
Le discours culturel enrobe l'esclavage quotidien d'une guimauve de cohésion sociale, de mixité culturelle et de dialogue citoyen.
Nous ne voyons là qu'une tentative d'imposer soumission des corps, uniformisation des esprits et neutralisation des conflits.
Les mots du pouvoir sont aussi truffés que le cheval de Troie. Et quand le cheval entrera dans Marseille par la mer, nous ne serons pas le public muet, regardant tranquillement l'enterrement coloré et en musique de nos quartiers.
Nous ne serons pas non plus des figurants passifs, reste folklorique de la contestation politique, consommateurs d'une ville prison quadrillée de flics et de caméras, ni prisonniers de magasins débordants et de galeries tapageuses.
La culture dominante laisse juste ce qu'il faut de subversion pacifiée pour que chacun se sente exister en tant qu'individu en dehors de tout rapport de classe.
On restera pas calme devant ce spectacle démocratique et policé.
Des tomates d'abord.
Des caillasses ensuite.
The show must go off.
The show must go off.
De
Goran Bregovic.
Voilà, une petite et musique entraînante.
Vous êtes toujours sur NDChaîne.
Et voilà, et pour finir, on va finir par un petit mot sur les prisonniers d'Action Directe. Donc on ne vous refera pas tout l'historique, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Et voilà, si ce n'est que, j'espère que tout le monde se souvient que Jean-Marc Royan a été réincarcéré en octobre dernier pour s'être exprimé, soi-disant, sur son passé. Que Georges Cipriani, comme on vous l'a dit il y a quelques semaines, a eu un refus de sortie après le passage devant le CNO, qui est un peu l'instance psychologique qui fait passer les détenus pour savoir s'ils peuvent être libérés et s'ils sont aptes à se réinsérer dans la vie quotidienne. Voilà. Donc il reste toujours ces deux prisonniers qui, normalement, on espère, devraient sortir comme les autres. Et voilà, donc il y a un appel qui vient de sortir pour relancer la campagne de libération, dont on va vous lire quelques passages.
Quelques extraits. Ce qui paraît être un assouplissement des conditions de détention a été retourné en un moyen supplémentaire pour s'attaquer à l'identité politique des prisonniers. Toutes les mesures d'interdiction et de restriction individuelle associées au régime de semi-liberté tentent à soumettre le prisonnier, à le dissocier de sa vie militante et à briser l'esprit de résistance qu'il a maintenu durant sa détention. Ce qui est présenté comme des libérations est en fait la prison qui se continue sous une autre forme, avec le même projet d'anéantissement et de dissociation. C'est pourquoi les restrictions sont poussées jusqu'au ridicule. Le silence imposé à propos des luttes passées agit à la dépolitisation ambiante actuelle. Les seuls mots acceptés doivent exprimer le repentir, les regrets ou revendiquer l'innocence. En dehors de la collaboration et de la critique morale, ils sont parvenus à criminaliser toute explication de la violence révolutionnaire telle qu'elle s'est déroulée sur le continent européen pendant plus de 20 ans. Alors que les luttes anti-impérialistes et anti-capitalistes des années 60, 70 et 80 sont toujours d'actualité, parler des raisons politiques des actions armées d'Action Directe revient à expliquer une partie des causes de la crise actuelle. En son temps, AD a répondu à cette violence du système quotidienne, masquée sous la forme de la norme de l'impossible remise en cause. Georges Besse était dans les années 70-80 un des décideurs de la restructuration néolibérale qui a abouti à la situation actuelle. Son exécution était une remise en cause radicale du monopole de la violence. L'acharnement contre les militants d'AD de la part de l'État et de tous ses collaborateurs repose sur l'impossibilité de combler le fossé creusé par cette action exemplaire. Aujourd'hui, se taire, c'est accepter les pratiques de cette justice d'exception. Le choix de mener la lutte armée n'était pas accepté par tous, mais la tentative de la bourgeoisie de réécrire l'histoire est une attaque contre l'histoire commune de l'ensemble de la gauche. Mobilisons-nous pour la libération de Georges Cipriani et de Jean-Marc Rouillant, libération sans condition des prisonniers d'AD, levée des arbitraires et des assignations à résidence que subissent les prisonniers après 22 ans et plus de répression carcérale.
On ne vous laissera pas crever.
L'entraide, c'est des grandes choses et des petites choses. Un désir de commun qui habite le quotidien. C'est mon voisin qui me prête sa voiture et une île en grève qui trouve à se nourrir tout en bloquant les flux. C'est se regrouper pour veiller sur les enfants quand les crèches sont pleines et c'est abriter un homme sans papier poursuivi par les flics. Ce sont des ouvriers qui arrêtent le travail pour soutenir leurs collègues licenciés et des habitants qui font du pain pour tout le quartier. C'est se défendre à nombreux contre les institutions de contrôle social ou faire une grande manifestation contre l'occupation policière de la rue.
Voilà, et des jeunes, c'est terminé pour aujourd'hui et on n'est pas là la semaine prochaine. C'est Graines de Crapule, on revient donc dans 2 semaines.
Voilà, solidarité active et offensive.
Bonsoir.
À bientôt dans la rue, ici ou ailleurs.
Ou ailleurs. Monsieur
et plutôt dans la rue.
Monsieur Ray, banque de pillage. Monsieur pense que les poules sont devenues une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.